À voix nue, Caroline Brouet. Cette semaine avec
Olivier Rollinger, une balade entre ciel et mer.
Premier épisode, une enfance blessée. Bonsoir Olivier Rollinger.
Bonsoir à vous et ravi de vous accueillir à la maison.
C'est nous qui sommes ravis d'être avec vous ce soir et pour toute la semaine. Vous êtes sûrement une balade entre ciel et mer, c'est ce que vous allez nous raconter au cours de ces cinq soirs. Vous êtes plus prosaïquement l'un des plus grands cuisiniers de ces 40 dernières années, de la génération des trois étoiles Michel Brasse, Pierre Gagnaire, Alain Passard ou Michel Troisgros, de ces chefs qui ont fait la gastronomie française des années 80, 90, 2000 et qui ont contribué à faire évoluer notre cuisine. J'ai intitulé cette série « Du vent, des étoiles et des épices ». Trois mots qui vous vont bien. Le vent, parce que vous êtes né à Cancale, en Bretagne, où nous sommes pour enregistrer cette série. Les étoiles, parce que vous les avez collectionnées en cuisine, mais aussi parce que vous avez un peu la tête dans les étoiles, rien qu'en vous présentant, on l'a compris. Et parce que vous êtes considéré par vos pairs comme un poète. Et puis les épices, parce que vous en avez fait votre univers, votre passion, votre spécialité. Nous parlerons donc de cuisine demain. Nous parlerons d'épices mercredi, de vos engagements et de vos responsabilités jeudi, et de ce qu'on pourrait appeler les révolutions culinaires en cours vendredi. Mais commençons donc par la Bretagne, cette Bretagne qui vous est si chère. Vous êtes né le 14 septembre 1955 à Cancale. On ne quitte pas ce petit port de pêche breton. Ça fait quoi, Olivier Rollinger, de naître avec la mer devant soi?
Lorsque l'on a la chance de naître devant la mer et avec le regard porté sur l'horizon, bien, on a cette chance de pouvoir partir à tout instant sur ce tapis volant, sur ce tapis roulant permanent de la baie du Mont-Saint-Michel. Mais au-delà, on peut toujours se demander, lorsque l'on est enfant, si c'est pas une vague qui nous a déposé à un moment sur ce rivage. Je pense que effectivement, les hommes et les femmes qui naissent et qui vivent au bord de la mer ont beaucoup de choses en commun, que ce soit au fin fond de la Nouvelle-Zélande ou au fin fond de l'Irlande. C'est peut-être ce regard porté sur l'infini, d'abord qui est extrêmement reposant, mais au-delà, c'est ce souffle de liberté, d'ouverture, cette grande fenêtre ouverte sur le monde, avec très vite une obstination. Lorsque l'on grandit, lorsqu'on est dans ce pays de Saint-Malo, breton, on a chevillé au cœur l'envie de découvrir d'autres rivages, d'autres soleils, pour toujours rêver d'aller de l'autre côté de cet horizon. Et puis lorsqu'on est dans la baie de Cancale aussi, c'est cette respiration céleste, c'est-à-dire ces 250 millions de mètres cubes qui rentrent et qui sortent deux fois par jour dans cette baie du Mont-Saint-Michel. On a vraiment rendez-vous avec le cosmos. On dit que c'est un pays qui a rendez-vous avec la Lune. Mais au-delà, de voir la mer qui est là et on joue avec elle, 6 heures après, elle a disparu. C'est qu'il existe bien quelque chose dans l'au-delà que l'on ne peut pas maîtriser. Et ce rapport au cosmos, moi, m'a toujours fasciné. C'est à la fois le cosmos, mais c'est aussi très vite, nous amène une forme de spiritualité. Et moi, il est vrai que depuis ma tendre enfance, j'ai une très très forte complicité avec les fées de la baie du Mont-Saint-Michel.
Ça donne un sentiment de fragilité aussi, cette sensation que bah justement vous avez pu être une vague déposée là, mais presque par hasard, ou que la mer arrive et qu'elle repart, donc comme la vie vient mais qu'elle s'échappe.
Ben la vie, elle vous porte, elle vous amène à. Enfin, on peut espérer que toute naissance est une marée haute d'amour, mais ensuite, malheureusement, la mer baisse aussi. La mer baissant deux fois par jour, elle peut vous abîmer aussi en vous laissant sur le rivage alors que vous savez pas encore vraiment marcher, respirer, grandir. Et puis peut-être que lorsqu'elle revient, vous apprenez mieux que personne à nager.
Vous avez aussi grandi avec des histoires de marins, de corsaires.
Cet homme merveilleux qui était Michel Lebris, qui disait que c'était un pays d'étonnants voyageurs, mais il s'était pas trompé. De Duguay-Trouin, Maille de la Bourdonnais, à Surcouf, à Jacques Cartier, à Charcot. Tous ces hommes viennent de ce pays. Et là, cette envie de partir pour mieux revenir, les hommes et les femmes qui vivent ici ont cet esprit, on est un esprit paysan. On veut sortir les premières petites pommes de terre nouvelles. Pêcheurs, parce que dès que les beaux jours, on pousse le canot à l'eau et on va mettre des casiers et on va mettre des lignes de fond et on va prendre les premières araignées, les premiers homards. Ensuite, on va aller à la pêche au bouquet, on va aller au bas de l'eau. Donc on est pêcheur, mais aventurier, esprit d'aventure, ouverture vers les autres, ouverture vers l'ailleurs. Je pense que c'est ce qui caractérise toujours le pays de Saint-Malo, c'est cet esprit d'ouverture vers l'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, très vite, pour tenter de traduire cet esprit d'aventure, j'ai pensé que maîtriser les épices dans l'esprit du 17e que l'on trouvait dans les murs de Saint-Malo pouvait être une bonne occasion de traduire cette dimension culturelle de mon pays.
Ça a été un point d'entrée dans l'univers des voyages, des rêves, de l'aventure maritime, des épices. Vous diriez que là où vous avez grandi, cette lumière, ces marées, la musique de l'océan, l'horizon, ça a été vraiment ce qui a façonné l'imaginaire du cuisinier, du compositeur d'épices que vous êtes devenu.
C'est sûrement une partie. Les sortilèges de la baie du Mont-Saint-Michel, sûrement. De l'autre côté, je dois reconnaître que ma mère s'appelant Chouan, une descendante des Chouans, de Jean Chouan, les croyances de l'arrière-pays celtique sont très importantes aussi. Je parlais des fées de la baie du Mont-Saint-Michel, mais les fées de la forêt de Brocéliande sont aussi très présentes. Les légendes, la notion de vie. C'est-à-dire que pour un Celte, il existe une naissance tous les matins et une mort tous les soirs. Formidable, c'est-à-dire que, quel que soit, c'est pas très grave finalement ce que je vais faire aujourd'hui, puisque de toute façon je vais mourir ce soir, mais je vais renaître demain matin. Je trouve que c'est une belle manière aussi d'aborder la vie. En tous les cas, ça me permet de la hacher quotidiennement et de ne pas la présenter comme un avenir qui est souvent pour beaucoup un Everest. Mais au-delà, il est vrai que la notion du voyage, du voyageur, des pistes, des navigateurs, de la course, prendre le large, larguer les amarres. Pour moi, cuisiner, c'est une manière de larguer les amarres. J'en avais besoin. Mais j'ai surtout tout ces décors, ces lumières, cette marée, ce rapport au cosmos, c'était très important. Ces croyances de la plastique l'étaient également. Mais ce qui a joué un rôle énorme dans ma vie, c'est la maison dans laquelle nous nous trouvons, ce qu'on appelle aujourd'hui la maison du voyageur, qui était une maison dans laquelle je suis arrivé quelques jours après ma naissance.
C'est une malouinière.
C'est une petite malouinière.
Qu'est-ce que c'est qu'une malouinière?
Une malouinière, plusieurs qui étaient construites tout autour de Saint-Malo. C'était des maisons qui étaient construites souvent au 17e et 18e par les armateurs, qui gagnaient beaucoup d'argent, qui faisaient appel bien souvent aux architectes et aux mêmes fournisseurs que le roi, qui construisaient des jolies demeures à la campagne, très rarement devant la mer, parce que la mer, pour eux, c'était le travail, et c'était le risque, et c'était aussi parfois la tombe. Donc c'était plutôt un petit peu en retrait, toujours avec des très jolis jardins, ramenant des plantes d'ailleurs, et avec des marbres de Carrare, des cuirs de Russie, des boiseries, et puis tout de suite un mobilier d'acajou, de mobilier de porc, avec des bois de rose, avec donc c'était des maisons presque un peu de nouveau riche, si je puis dire, parce que ils achetaient en même temps des titres de noblesse, non pas par hérédité, mais par bravoure aussi, souvent par courage, d'être allé à l'autre bout de la planète pour aller aussi, et là la grande différence, pas coloniser mais commercer, et alors pas toujours d'une manière très vertueuse, mais ça n'a rien à voir avec vouloir s'approprier des territoires. La notion des comptoirs à l'époque et d'échange avec ces autres cultures, ces autres civilisations n'étaient pas sans intérêt, et puis avec en prenant un risque énorme. Et moi, j'ai grandi dans cette petite Malouinière. Mon père était médecin.
Il était pas armateur, il était médecin, votre père.
Oui, oui, mon père était médecin. Mes parents avaient fait l'acquisition de cette maison en 1947 et n'ont absolument acheté pratiquement aucun meuble, puisque cette maison avait été vendue à la bougie. Et la personne qui jouait au jeu avait dû partir, et mes parents ont fait l'acquisition. Mon père était médecin de gens de mer également. Il arrivait comme en 47, vous imaginez, c'était les médecins qui arrivaient avec à la fois, on les appelait les médecins miracles, parce qu'ils arrivaient avec la pénicilline, par rapport aux vieux médecins qui n'avaient pas la maîtrise des antibiotiques. Et donc on les appelait les médecins miracles, et ils arrivaient avec la sécurité sociale aussi très vite. Donc c'était un bouleversement. Donc médecin généraliste, avec une vie, une maison, et ça j'ai pu l'apprendre de mes parents, c'était toujours une grande leçon, la porte restait toujours ouverte. Et on peut sonner à la porte aujourd'hui, c'est toujours la même sonnette, et n'importe qui, homme ou femme, lors du jour ou de la nuit, pouvait sonner à la porte, et ma mère venait leur ouvrir, et mon père venait ensuite les soigner. À l'époque, on n'appelait pas le SAMU, on n'appelait pas la police, on appelait le médecin de famille qui arrivait pour évidemment un malade, pour évidemment un blessé qui revenait de mer ou dans les champs, mais aussi lorsque parfois l'homme avait un peu trop picolé et maltraitait sa femme. Et là, c'était les voisins appelaient le médecin, on venait chercher où c'était la femme qui venait ou les enfants. Et ça, je l'ai vu, c'était des médecins qui faisaient des accouchements, qui recousaient, qui faisaient des radios, c'était absolument incroyable. Et moi, je voyais des nuits entières, je savais que la sonnette, c'était deux, trois fois, je savais que j'allais revoir mes parents le lendemain matin prendre le petit déjeuner avec l'œuf à la coque, je savais quelle nuit ils avaient pu passer, pratiquement quelques heures de sommeil. Mais ça... Dans cette maison, je me suis nourri d'une jeunesse merveilleuse, une enfance merveilleuse. Très peu de repas avec les parents.
Vous étiez surtout élevé par deux bonnes, on disait.
Oui, à l'époque, on avait deux bonnes. C'était
Ghislaine et Marcel.
Ghislaine et Marcel, c'était deux. C'était comme une deuxième et une troisième maman. Très peu de souvenirs de dîner avec mes parents.
Parce qu'ils sortaient beaucoup, vos parents.
Ils sortaient.
Ils adoraient sortir. Ils adoraient sortir.
Mais c'était, je pense, toute cette génération qui, alors qu'ils étaient étudiants, ont eu très peur avec la guerre, ont été souvent réquisitionnés tout jeunes. Et là, tout d'un coup, ils gagnaient leur vie. Et ils gagnaient très bien leur vie. Mais c'était la nouvelle vague, c'était Françoise Sagan, c'était les voitures qui allaient vite, c'était fumer, c'était boire, passer des nuits à jouer au poker, c'était
quand la on fête en permanence. Quand on faisait pas les patients qui venaient sonner à la porte.
Ah ben bien sûr, entre-temps, mais ils faisaient tout ça, mais avec un engagement total. C'était une époque très singulière, mais et pourquoi pas dîner, parce que oui, ils recevaient. Et je devais manger dans la cuisine avec Ghislaine ou Marcel, où ils sortaient, donc j'étais avec Ghislaine et Marcel, avec là aussi une complicité merveilleuse, j'ai des souvenirs absolument incroyables.
Les moments où vous profitiez de votre père, Olivier Rollinger, c'était surtout le dimanche matin, quand il vous emmenait faire la tournée des patients de clinique. Vous emmenez d'abord acheter des gâteaux à la pâtisserie.
Oui, c'est vrai.
Là, vous passez
évidemment,
du temps avec
lui. J'en parle... J'ai toujours un peu de mal. C'est dur ce que je vais dire, mais j'ai toujours un peu de mal à parler en bien de mon père. Mais tellement il m'a fait souffrir après. Mais je dois dire qu'il a, il a été un modèle pendant jusqu'à mes 13 ans. C'est-à-dire que c'était un homme qui s'occupait de ses patients comme mais c'était au-delà du patient. C'était quelqu'un qui c'était quelqu'un qui aimait les gens, et en particulier évidemment les personnes qu'il soignait. Et ce que vous racontez est juste, c'est-à-dire que le dimanche matin, il allait pas à la messe, mais par contre, on se levait assez tôt, on allait à la pâtisserie Kervarec dans la rue principale de Cancale, qui était la meilleure pâtisserie, avec en particulier des mochas et des religieuses absolument délicieuses. Et ensuite, on partait avec toutes ces boîtes de gâteaux et on allait à la clinique Sainte-Marie et à la clinique de l'Espérance, qui était tenue par des sœurs, par des religieuses, d'où à chaque fois mes fous rires d'offrir des religieuses au gâteau à des religieuses, qui me faisait très rire avec mes 8-9 ans. Et il allait comme ça offrir un gâteau à tous ses patients et aux religieuses tous les dimanches matins pour prendre des nouvelles. Voilà, je trouvais que c'était très fort. Et puis l'autre moment qui était aussi très fort, c'était juste avant Noël. Il y avait une espèce de collecte. Vous savez, à l'époque, il y avait les gens qui étaient à la sécurité sociale, puis il y avait beaucoup de gens qui ne l'étaient pas et qui n'avaient pas nécessairement les moyens de régler le médecin. Et donc ces gens-là, bien souvent, étaient ostréiculteurs ou paysans, ou pêcheurs, ou ils faisaient aussi des petites peintures ou des petits ex-voto, enfin des petits objets comme ça, mais surtout beaucoup de nourriture, et en particulier beaucoup d'huîtres, des volailles aussi. Et tout ça arrivait, et mon père les redistribuait la veille de Noël et les emmenait dans des familles bien spécifiques. Et il me disait, il m'emmenait voir les gens qui étaient dans le besoin et qui n'avaient pratiquement rien et qui étaient effectivement dans des conditions d'habitation. J'ai appris beaucoup et ça m'a permis d'apprendre. Donc pour toutes ces choses-là, je le remercie.
Et ce monde-là s'est effectivement écroulé quand un jour, alors que vous aviez 13 ans,
oui, alors j'avais pris
votre père est parti.
Alors après, bon, c'est surtout pas aller dans le pathos, parce que je crois que les uns les autres, un jour qu'on m'a demandé de me raconter un peu tous mes bobos, en fait, je me dis, tous ces bobos-là, ils intéressent pas grand monde, ils intéressent surtout les gens de ma famille. Mais d'aller raconter en public comme ça, mais en fait, quand je m'exprime maintenant, j'essaie aussi d'être le porte-parole de toutes celles et tous ceux qui ont connu des bobos. Et surtout, il n'y a pas de petits bobos, ou il n'y a pas de relais. Enfin, il y a une très grande relativité en disant, bah oui, mais pourquoi tu te plains? Il y en a d'autres qui ont ceci, qui ont cela. Non, quand on a des bleus à l'âme, à des moments de sa vie, on peut être dans l'enfance, on peut être dans l'adolescence, on peut être un peu plus grand aussi, jeune adulte, milieu adulte. On a tous des bobos qui, pour les autres, paraissent tout à fait anodins et assez peuvent passer assez ridicules, ou en tous les cas, pas d'importance extrême. Mais pour la personne qui les vit, elles sont extrêmement douloureuses. Donc il faut pas prendre. Donc lorsque je raconte ces choses-là, je voudrais pas surtout dire mais pourquoi finalement il y en a d'autres qui subissent et qui vivent des choses évidemment beaucoup plus dures. Moi, je prends mon premier pet à l'âge de 2 ans et demi, parce que je me fais dévorer par le berger allemand de la famille, qui va me prendre le nez, la lèvre supérieure et toute la joue. Donc après, bon, j'ai des souvenirs où j'essaie d'enlever le fil de bronze qui, alors que j'essayais un peu de manger, je prenais comme ça une petite fourchette d'enfant et j'essayais de, et tout d'un coup la joue se réouvrait. Enfin, on m'a raconté toutes ces choses-là. Pour autant, j'aime beaucoup les chiens, donc ça ne m'a pas vraiment perturbé. Mais ce qui fait que dès que je suis arrivé à l'école, dans la cour d'école, les premières, à la maternelle, on m'a très vite appelé gueule cassée. Et bon, ça vous marque. Bon, vous êtes dans un pays corsaire, c'est pas très très grave, et vous avez la gueule complètement balafrée. Mais il y a des moments, petit garçon, où bon, on l'apprécie pas beaucoup. On sait qu'on n'est pas très beau et que on part pas avec tous les premiers atouts. Et c'est un peu meurtri et marqué en me disant ouais, t'as une sale gueule parce que t'as une gueule cassée. Ça c'est 2 ans et demi. Mais à la limite, ça c'est pas très grave parce que une des plus grosses blessures, sinon celle qui est la plus indélébile, c'est celle que je vis à 13 ans, puisque là, mes parents se séparent, mais ça, à la limite, c'est presque tellement commun. Enfin, à l'époque, ça n'était pas tant que ça. Les parents qui divorçaient parce qu'il y avait des principes, et puis même si parfois les couples ne vivaient pas toujours dans la plus grande harmonie, chacun faisait quand même un petit effort pour continuer. Et puis là, la cassure se fait, mais ça encore, ça arrivait. Mais là, plus grave, mon père, à un moment donné, il se sépare et puis on se revoit. On se revoyait comme parfois, malheureusement, le papa, comme ça, emmène son, son petit garçon. Et puis à l'âge de 13 ans, vous savez, c'est là où on considère pratiquement c'est le dernier moment. D'ailleurs, on considère le père presque comme un dieu vivant, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment l'exemple, c'est le modèle. Ça bascule d'ailleurs en général vers 14 ans, où on a plutôt envie de se barrer de la maison et de le prendre plutôt pour un vieux schnock. Mais là, j'étais pas, je vénérais encore. C'était un type qui avait un charisme et qui était apprécié d'énormément de gens, et en particulier de ma mère, qui était follement amoureuse de lui. Mais et puis il s'en va, donc il part avec une nouvelle femme. Il me reçoit de temps en temps, il me dit, bon, si tu veux, on se voit, on se verra au restaurant de temps en temps, comme malheureusement, parfois, c'est simplement le papa voit un de ses enfants comme ça, vite fait, au restaurant, à un moment de la semaine, un jour de la semaine. Et puis un jour, il me dit, mais maintenant, si tu veux me voir, tu viendras me voir dans ma nouvelle maison. Et je lui ai dit, je ne tiens pas à rencontrer celle qui a pris la place de ma mère. Et à ce moment-là, il m'a dit, ben écoute, le jour où tu changeras d'avis, tu viendras me revoir. Et je n'ai jamais changé d'avis. Je n'ai jamais changé d'avis jusqu'au jour où, 37 ans après, il m'a écrit une lettre où il m'a demandé, avant, parce qu'il commençait vraiment à être aussi, à prendre de l'âge, il souhaitait me serrer dans ses bras avant de partir. Et évidemment, j'ai tout de suite répondu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'âge de 13 ans, quand un père ne vous dit plus bonjour, vous croise sur le trottoir, vous reconnaît plus, il n'y a plus de Noël, il n'y a plus d'anniversaire, il vous croise dans le jardin de devant, parce qu'il avait encore son cabinet médical qui était là, vous entendez sa voix toute la journée, parce qu'à l'époque, c'était pas, il n'y avait pas de portable, il y avait des espèces de gros émetteurs qui étaient dans le bureau de sa secrétaire, qui lui permettent d'être en relation à chaque fois qu'il était en voiture entre deux visites. Donc vous entendez la voix de cet homme qui était votre père. Vous voyez votre mère qui, elle, a des hauts et des bas, plutôt des bas, et plutôt des bas très bas, et vous êtes seul. Alors j'ai une sœur qui a 12 ans de plus que moi, mais qui était déjà partie de la maison, donc qui souffrait également, mais elle souffrait à la fois en tant que fille et en tant que jeune femme. Mais elle n'était plus à la maison. Donc je me suis retrouvé seul avec cette mère dans cette maison, et c'est la raison pour laquelle aussi je suis aussi tellement attaché, parce qu'elle s'est battue pour garder cette maison. Elle voulait pas, alors qu'elle était bien trop grande pour qu'on reste à deux dans cette maison, mais elle voulait pas que je vive un autre traumatisme en perdant ma coquille. Parce que lorsqu'on vit au bord de la mer, on connaît tellement l'importance de la coquille. Et donc cette maison s'est endormie pendant plusieurs années, avec une adolescence un peu casse-cou, un peu voyou de la plage.
Oui, mais vous avez tenu bon, vous aussi, quand même, Olivier Rollinger, peut-être avec cette mère comme boussole. Hein, c'est-à-dire que même si, oui, vous êtes allé... Laisser aller à une forme de petite délinquance, du trafic de moto, ouais, etc. Vous avez quand même maintenu le cap à l'école. Vous êtes resté.
Je travaillais bien à l'école.
Vous êtes resté très bon. Hein,
oui, j'étais un bon élève.
Vous avez fait maths sup, vous avez fait prépa grandes écoles, vous destiniez à vous avez fait l'école des mines, vous avez fait de la chimie. Vous aviez vraiment envie de faire
le concours d'école des mines.
L'école des mines. Vous vouliez vous intégrer l'école des arts et métiers pour devenir ingénieur. Enfin, vous avez tenu ce cap.
Oui, parce que je voulais, parce qu'elle était déjà tellement malheureuse cette situation. C'est incroyable comment une femme peut surtout se faire le reproche de ne pas avoir réussi à garder non pas un mari mais le père de son fils. C'est ça qui était terrible, c'est-à-dire que c'est au-delà de l'amour qu'elle pouvait éprouver pour mon père, elle se reprochait de n'avoir pas été à la hauteur pour avoir pu le garder au moins jusqu'à ma majorité, quoi. C'est terrible, quand même. Ce qui est merveilleux, c'est mais ma mère a eu ce drame, mais elle a eu une chance énorme, j'y reviendrai un peu plus tard, c'est que j'ai choisi une femme qui a accepté cette mère. Voilà, donc elle a vraiment vécu, elle a eu beaucoup, beaucoup de chance pour finir, hein. Donc j'ai essayé, parce qu'une mère, évidemment, elle vous élève, elle prend soin de vous, elle vous voit grandir, elle vous accompagne, elle modèle votre soulier pour que vous puissiez marcher vers vos rêves. Et puis les années passent, vous êtes complice, surtout quand il arrive des groupettes comme ça, très, extrêmement complice. Alors on ne se dit pas tout de suite, mais à 6 mois, 1 an, moi je lui racontais toutes les bêtises, et Dieu sait si j'ai pu en faire. Je lui fais signer des faux papiers pour pouvoir quitter le territoire français, pour partir en mobylette en Pologne ou ailleurs, et dans toute l'Europe de l'Est. Mais au-delà, et puis le temps passe, et il arrive un moment où cette maman devient plus votre fille, où tout d'un coup vous commencez à l'épauler, et puis là c'est vous qui l'accompagnez. Et lorsque cette maman revient aussi, une forme de petite fille, quoi. Et ça aussi, j'ai eu cette chance de voir, de pouvoir être aux côtés de cette femme. Mais je le rappelle, elle n'aurait jamais pu vivre ces choses-là si Jeanne n'avait pas accepté, avait compris les relations que je pouvais avoir avec cette mère, et qu'elle aurait pu tout à fait rejeter et poser ses conditions, et même peut-être même que je quitte ma mère ou qu'elle me quitte, parce que je considérais que... Donc elle a eu une chance inouïe. Elle a eu une chance inouïe. Merci Jane.
Elle a eu une chance inouïe aussi parce que vous êtes resté en vie, Olivier Rollinger, malgré le troisième drame qui est arrivé. Alors on n'est plus dans l'enfance, hein, on est dans le jeune adulte que vous étiez. Vous avez survécu à une très violente agression. Mmh. C'est ce qui a sans doute provoqué le changement de vie que vous vous destiniez. Et c'est ce que nous verrons demain, si vous le voulez bien. Bonne soirée à vous.
Merci, belle soirée à vous.
C'était À Voix Nue avec Olivier Rollinger. Chargé de programme, Daphné Abgral. Prise de son, Stéphane Foulon. Réalisation, Guillaume Baldi. Une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.